Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IGL. Bienvenue à Territoires d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones sur l'actualité des territoires et du Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Les députés des territoires du Nord-Ouest retournaient en chambre cette semaine pour la deuxième session de cette 19e Assemblée législative. Déception et inquiétude du côté des employés et des actionnaires de la mine Ekati, le processus d'achat par la corporation Washington Group n'ira pas de l'avant. La Fédération des francophones du Nunavut accueille un nouveau conseil d'administration. J'en ai discuté avec le nouveau président, Gump Jalog, et la présidente sortante, Mylène Chartrand. La Fédération franco-ténoise a dévoilé récemment les plans conceptuels de ce que serait le futur centre communautaire franco-ténois. J'en discute avec mon collègue Baptiste Foisy. Johannes Lamp vient d'être reconduit à la présidence du Nunatsiavut à Terre-Neuve-Labrador. J'en discute avec mon collègue Denis Laure. Finalement, ma collègue de Zone Arctique, Nelly Guédissi, nous parle cette semaine des initiatives qui ont été prises dans les réseaux de santé des territoires en réaction aux circonstances précédant le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, au Québec. Environ un an après la formation du gouvernement de Caroline Cochrane, les députés des territoires du Nord-Ouest sont rassemblés depuis ce jeudi 15 octobre pour la session d'automne de la 19e Assemblée législative des TNO. En plus des nombreux dossiers portés par les députés, les membres devront adopter les budgets pour les différents projets de la COVID-19. La commissaire aux langues, Shannon Goldberg, doit également déposer son dernier rapport sur les langues officielles au territoire du Nord-Ouest. Il a notamment été question en cette première journée des plus récents développements dans le dossier de la mine Ekati. Le député de Frame Lake, Kevin O'Reilly, a questionné la ministre des Finances et de l'Industrie du tourisme et de l'investissement, Caroline Vazonek, quant au rôle du GTNO pour assurer le respect des droits et des intérêts des travailleurs, des actionnaires et des résidents des TNO. Radio-Taga suivra assidûment les travaux de l'Assemblée qui se poursuivent jusqu'au 5 novembre. On vous présente nos comptes rendus aux prochaines éditions de Territoires d'Info. L'espoir de voir la mine de diamants Ekati reprendre ses activités à l'hiver 2021 au TNO a pris un coup dur la semaine dernière. La minière Dominion Diamond, propriétaire de la mine Ekati, a annoncé par communiqué de presse le 9 octobre l'échec d'une entente entre l'acquéreur potentiel, le Washington Group, et les trois compagnies d'assurance émettrices du montant de cautionnement déposé auprès du GTNO. Un échec qui met une croix sur la transaction. Il n'y a ainsi aucun acquéreur potentiel à l'heure actuelle pour reprendre les activités de la mine fermée depuis le printemps dernier, qui emploie plus de 700 travailleurs sur le territoire. Mise sous la loi de la protection contre ses créanciers en raison de la chute du prix du diamant provoquée par la pandémie, Dominion Diamond avait laissé entendre en septembre que le Washington Group pourrait racheter la mine Ekati avec une offre d'achat de 166 millions. La plus récente annonce de la corporation est inquiétante aux yeux du directeur général de la Chambre des mines du Nunavut et des TNO, Tom Hofer.
Well, I think there was some optimism from previous comments by Dominion that they would reopen the mine in the early winter. But with what's happened last week, that seems to not be the case now.
Comme l'indique Tom Hofer, jusqu'à tout récemment, il semblait y avoir un certain optimisme du côté de Dominion Diamond qui indiquait souhaiter rouvrir la mine Ekati à l'hiver 2021. Or, avec ce qu'on nous a annoncé la semaine dernière, poursuit M. Hofer, il semble que ce ne sera pas le cas. Comme le souligne M. Hofer, il n'est pas rare de voir des mines fermer puis rouvrir leurs portes au territoire du Nord-Ouest. Or, la situation de la mine Ekati est particulière puisqu'elle doit faire face aux défis imposés par COVID-19, mais également au déclin prévu de l'industrie du diamant au territoire du Nord-Ouest dans les 5 prochaines années. Les compagnies d'assurance Aviva, Argonaut et Zurich ont collectivement émis environ 280 millions de dollars de cautionnement déposés auprès du gouvernement des TNO. C'est un montant qui est destiné à garantir que la mine Ekati puisse être fermée et récupérée en toute sécurité une fois que l'exploitation minière cessera définitivement. Ainsi, les compagnies d'assurance et l'acquéreur potentiel, soit le Washington Group, ont atteint une impasse dans les négociations, peut-on lire dans le communiqué de presse émis par Dominion Diamond le 9 octobre. Il n'y a aucune perspective raisonnable de parvenir à un accord satisfaisant. L'acheteur ne peut ainsi satisfaire à la condition de cautionnement. En entrevue avec Radio Taga, la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Caroline Vazonek, indique que le pouvoir d'action du GTNO est limité face à cette situation.
Pour nous autres, on veut s'assurer qu'on toujours crée des conditions dans lesquelles une opération comme les Caries peut réouvrir. Qu'ils vont savoir que les conditions ici sont des conditions qui supportent à une opération profitable. Et vraiment, pour nous autres, ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. On peut vraiment, je ne peux pas m'entrer, moi, comme ministère, non avec le TNO, entrer nous autres dans une négociation entre deux organisations privées. J'en ai pas ce pouvoir-là, mais on peut créer les conditions afin que le mine peut devenir profitable.
À l'heure actuelle, dans le contexte actuel, comment concrètement vous pouvez poser des gestes pour assurer que les conditions soient favorables?
Et maintenant, avec COVID-19, on peut faire des choses pour assurer que les grandes compagnies qui font ce travail ont des soutiens, peut-être au cadre du gouvernement fédéral. Alors, on a un rôle d'être un advocacy role à parler à le gouvernement fédéral, assurer qu'ils vont supporter et soutenir les grandes industries comme celui-ci avec les réseaux minéraux qu'on a ici. Une deuxième chose est de toujours parler et encore améliorer notre système de régulation. Alors, et pour ça, c'est vraiment encore, c'est le gouvernement fédéral.
Pour ce qui est des nombreuses entreprises actionnaires de la mine au TNO, le gouvernement des TNO n'aurait, selon la ministre Caroline Vazonek, qu'un pouvoir de représentation devant le tribunal.
Je ne veux pas dire qu'on n'a pas un rôle à jouer là au cours de la CCAA. On a un rôle à jouer afin de assurer que la juge connaît l'impact que cette opération en a sur les industries ici, sur les personnes ici. Et on fait ça aussi.
D'accord. Donc, on étudie quand même les impacts, là, finalement, les effets collatéraux que pourrait éventuellement avoir la fermeture de cette mine.
Oh, oui, c'est ça. On parle de ça dans la cour. Notre avocat pour nous autres à la cour dit toujours l'importance de l'industrie parce que il y a beaucoup de creatures qui se trouvent ici. Je ne pense pas que sont chacun et chacune présents en cours, mais comme le gouvernement, on a l'opportunité de jouer ce rôle-là.
Pour ce qui est des employés de la mine Ekati, ils n'ont été avisés de l'échec de cette transaction que par les médias, c'est-à-dire à la suite de l'émission du communiqué de presse le 9 octobre dernier. Une situation qu'a condamné le syndicat des travailleurs du Nord cette semaine par communiqué de presse. Kurt Bergstrom est vice-président régional du syndicat des travailleurs du Nord. Il est également l'un des 350 employés de la mine Ekati qui ont été mis à pied au printemps dernier.
How does employees feel at this moment?
Oh, it's a setback for everyone that's been laid off, and even for the members that we have on site still currently under care and maintenance. We have to remember them as well. They've changed their lifestyle to accommodate us through rotation. So it's changed the way that they, manage their work-life balance. Yeah, it's a challenging time for everybody.
On voit cette situation comme un recul pour tous les employés qui ont été mis à pied, explique M. Bergstrom, mais également pour les employés qui sont toujours sur place, qui sont affectés à l'entretien de la mine et qui travaillent dans l'incertitude. Dans le communiqué émis le 13 octobre par le syndicat des travailleurs du Nord, le président Todd Parsons s'est indigné de l'attitude de la compagnie face au sort des travailleurs. Ces compagnies ne semblent pas avoir la responsabilité d'agir dans le meilleur intérêt des travailleurs du Nord, déclare-t-il. Qu'est-ce qui est mis en place par nos dirigeants afin de protéger nos travailleurs et notre économie des entreprises qui n'ont aucun intérêt dans notre avenir et qui ne se rapportent à personne d'autre qu'à leurs actionnaires, poursuit-il. Le syndicat indique espérer avoir davantage d'informations de la part de l'employeur sur la façon dont cette nouvelle affectera la réouverture de la mine et les emplois des travailleurs syndiqués. « Après 4 ans passés à la tête du conseil d'administration de l'Association des francophones du Nunavut, Mylène Chartrand passe le flambeau à son successeur, Gump Jalog, résident des Iqaluit depuis 5 ans et nouvellement impliqué dans l'organisme. Monsieur Jalog s'est donné comme mission, avec son équipe, d'élargir la couverture d'action de l'AFN afin de répondre aux besoins des francophones de toute origine culturelle et de toutes les collectivités du Nunavut au-delà de la capitale. Pour l'année à venir, les 6 membres du conseil d'administration, dont 4 nouveaux venus à l'AFN, devront relever le défi, entamé par leurs prédécesseurs, de rassembler la communauté francophone malgré les contraintes imposées par la pandémie. Mais à court terme, la priorité demeure la nomination d'une nouvelle direction générale à l'AFN, dont le poste est vacant depuis le printemps 2020. Monsieur Jalog se réjouit d'intégrer un organisme qu'il décrit comme solide financièrement et en pleine effervescence, malgré les contraintes actuelles.
On prend une situation qui est en bonne santé financière. Et puis aussi, ce qui est intéressant, justement, vous m'avez parlé de nouveaux membres et tout ça, c'est tout ce dynamisme qui vient, qui on voit que, bon, le CAPAC a fait un bon travail, justement, d'attractivité, qui fait que les nouvelles personnes sont inspirées de faire partie de cette organisation aussi et de participer à la construction de la francophonie nunavoise.
En effet, plusieurs nouveaux membres se sont inscrits à l'Association des francophones du Nunavut et ce, à la veille ou le jour même de l'Assemblée générale annuelle au cours de laquelle a été élu le nouveau président. C'est ce qu'a confirmé le coordonnateur du Franco-Centre, Ivo Vigourou. L'événement a fait salle comble avec une 30aine de participants. Au moment d'enregistrer cette émission, il n'a pas été possible d'obtenir le nombre exact de personnes ayant adhéré à l'AFN avant l'Assemblée générale annuelle, ni le nombre exact de membres de l'AFN. Pour M. Jalog, ce regain d'engagement reflète les nouvelles réalités de la francophonie nunavoise.
Et je suis heureux d'apprendre effectivement qu'il y a eu une augmentation d'adhésion et d'implication des membres. Et comme je le disais, ça me réjouit. Et ça reflète quand même, de toute façon, le Nunavut, hein, actuellement, le changement de visage des francophones qui s'intéressent de plus en plus à ce qu'on peut appeler l'immigration au Nunavut.
La présidente sortante, Mylène Chartrand, se réjouit, quant à elle, de cette nouvelle affluence.
C'est certain, il y avait beaucoup de nouveaux visages lors de la jeûne. On était assis en avant, donc on avait vu sur l'Assemblée. Puis je suppose que les gens... Je pense que les gens sentaient le besoin de s'impliquer. Fait que, bon, on est bien content de voir qu'il y a une relève, là, assurément.
Questionné sur sa vision de la prochaine année, le nouveau président, lui-même d'origine togolaise, entend contribuer à élargir la représentation de la francophonie au Nunavut à toutes les communautés culturelles, où qu'elles se trouvent sur le territoire.
Particulièrement, il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est justement d'aller vers les autres communautés du Nunavut, d'agrandir aussi cette francophonie, d'aller rechercher justement les francophones qui de plus en plus s'installent dans les autres communautés du Nunavut, pas seulement donc Iqaluit.
De manière concrète, aux yeux de Mylène Chartrand, une place importante devra être accordée au projet de la Maison de la francophonie du Nunavut dans l'ordre du jour du nouveau conseil d'administration.
On a fait une étude de faisabilité, puis la prochaine étape, ce serait pas mal le plan d'affaires pour voir comment tout ça pourrait s'orchestrer ensemble. Donc, c'est quand même un gros projet, un gros défi qui sera probablement là, sur la table d'ici dans les prochains mois.
Comme son successeur, Mme Chartrand se félicite du travail abattu dernièrement par son équipe. Comme elle l'explique, en plus du redressement des finances de l'organisme, l'AFN est parvenue à créer d'importants partenariats à travers le territoire.
On s'est assuré que l'Association des francophones du Nunavut soit sur la map, comme on dit. Donc, on est allé former des partenariats dans différents secteurs. Tout ça dans le but d'éventuellement peut-être faire développer des projets ou des services pour la communauté. Alors, je pense que c'est ça l'idée.
Des partenariats qui offrent un précieux complément à l'organisme.
C'est sûr que l'AFN a beaucoup de, a des ressources quand même limitées, côté ressources humaines et tout. Donc, en allant créer des partenariats, on va chercher de l'expertise extérieure et on peut ensemble ensuite créer des nouvelles initiatives intéressantes pour la communauté. Je pense entre autres à Canadian Parents for French, avec qui on a pu faire quelques activités au courant de l'année. Puis aussi, dans nos médias, une fournisseur de matériel également. Puis, le réseau des collèges et des cégeps francophones qui ont fait une étude de faisabilité sur les études postsecondaires et qui, suite à ça, vu la réponse des gens, vont lancer un nouveau projet.
Et quel conseil offrir au nouveau CA, celle qui a consacré 8 années à l'Association des francophones du Nunavut, insiste aujourd'hui sur l'importance de se fier au plan de développement global de l'organisme qui a été établi en consultation avec la communauté francophone pour l'horizon 2025. La semaine dernière, la Fédération franco-ténoise a dévoilé les plans conceptuels de ce qui serait un futur centre communautaire franco-ténois. Baptiste Foisy a assisté à la rencontre. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Baptiste, avant de tomber dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler un peu quel est ce projet de centre communautaire qui serait basé à Yellowknife?
Oui, c'est un vieux rêve de la communauté francophone au territoire du Nord-Ouest. Ça fait depuis une vingtaine d'années que différents projets ont été mis de l'avant. À l'heure actuelle, les territoires du Nord-Ouest sont la seule communauté francophone hors Québec qui n'a pas de centre communautaire ou d'un centre qui pourrait permettre, par exemple, d'accueillir des événements culturels comme des spectacles. C'est un peu l'intention derrière ce projet. Comme je vous disais, bon, il y a eu plusieurs différents projets mis de l'avant au fil des années. On en est à la 4e version d'un projet. Cette version-là, elle a commencé il y a peut-être 2 ans de cela. La Fédération franco-ténoise a été mandatée par ses membres de se lancer dans ce qu'on appelle une étude préliminaire ou une étude de faisabilité du projet. L'étude de faisabilité, elle a été réalisée l'an dernier et en janvier dernier, on se souviendra que des plans conceptuels avaient été présentés à la communauté francophone. Or, ceux-ci avaient reçu un accueil un peu froid. Il faut dire que bon, les plans en question étaient plutôt centrés sur des organismes communautaires et l'espace dédié à la communauté, si je puis dire. Donc, l'espace de spectacle, l'espace de rencontre était très, très minimal. Là. Certains ont dit que les gens allaient se réunir dans un corridor. Ça avait un peu déplu. On avait, voyant cet accueil-là, on était retourné sur la table à dessin. Et en somme, ce qui a été présenté la semaine dernière, c'était cette version revue et corrigée de ces plans conceptuels.
Après donc un premier accueil un peu froid, c'était une deuxième prise pour le comité du projet là, de charmer la population francophone. Est-ce que ça a fonctionné, Baptiste?
On pourrait dire que oui. Bon, les gens qui étaient sur place étaient massivement des gens qui étaient peut-être déjà un peu convaincus par le projet. Beaucoup de gens qui étaient ou bien sur le comité ou sur les conseils d'administration des organismes impliqués de la francophonie. Il y avait quand même là, un peu moins d'une dizaine de résidents qui étaient là à titre de résidents. Mais il y avait consensus dans la salle sur ce qui a été présenté. Il faut dire que le nouveau plan, disons, est de facture beaucoup plus classique que ce qu'on avait vu en janvier. Mais cette fois, il y avait bel et bien cette salle pour accueillir la communauté. Et je pense que c'était vraiment ça qui était recherché. On peut dire que le comité a écouté et répondu aux doléances du public.
La salle qu'on a baptisée l'espace rendez-vous, de quoi aurait l'air cette future salle communautaire?
Alors, cette salle, selon les devis qui nous ont été présentés, et je rappelle que ce sont des plans conceptuels et non pas des plans pour la mise en chantier, là. Donc elle serait située au 2e étage de l'édifice. C'est une salle carrée ou rectangulaire d'à peu près 100 mètres carrés. Ça veut dire que ça pourrait accueillir une centaine de personnes selon l'humeur du commissaire aux incendies. Là. Mais Et on pourrait, pour comparer, on pourrait dire que c'est une salle qui serait à peu près de la taille de ce que vous avez dans le club Elks à Yellowknife, au sous-sol, où il y a déjà eu souvent des événements francophones qui ont eu lieu. Mais ça serait quand même un peu plus spacieux parce qu'entre autres, il y aurait des hauts plafonds, là, contrairement aux Elks. Mais ça, une salle qu'on pourrait penser là, suffirait à accueillir différents types d'événements, concerts, rencontres communautaires. Évidemment, pour de très grands concerts, peut-être qu'à nouveau, il faudrait louer une salle là, comme le NAC, par exemple, à Yellowknife. Mais ce serait une salle qui ressemble à la majorité là, des salles de réception qu'on retrouve au territoire du Nord-Ouest.
Et c'est pas tout, là, au-delà de cette salle communautaire, qu'est-ce qu'on retrouverait dans le nouveau centre communautaire?
Oui, ben ça serait beaucoup les locaux des organismes, les organismes qu'on retrouve déjà dans ce qu'on appelle la Maison Bleue, la Maison Laurent Leroux, donc notamment Radio Taïga. Et donc Radio Taïga aurait son studio là, de même que le journal L'Aquilon. L'Association franco-culturelle de Yellowknife aurait également des espaces. Donc ça serait tout autour, tout près de la fameuse salle. Et sur le premier étage, ce serait la Fédération franco-ténoise et ses nombreux services qui serait si à cet endroit-là. Il y a également aussi un petit espace qui est dédié pour ce qui serait une clinique de santé. Bon, on n'a pas exactement beaucoup de détails sur qui occuperait la clinique de santé. On a cru comprendre que l'intention était de louer cet espace-là à des professionnels indépendants de la santé, qui psychologues jusqu'à l'acupuncteur ou encore des personnes qui peut-être font des soins alternatifs. Donc, un espace qu'on pourrait louer par des professionnels indépendants de la santé qui se retrouveraient là.
Maintenant que les plans ont été présentés, ce serait quoi les prochaines étapes?
Bon, donc ça, comme je vous disais, ce sont des plans qui sont issus d'une étude de faisabilité. Maintenant qu'on a décidé comment on pouvait faire le projet, ben il faut aller chercher le financement pour pouvoir le réaliser. Rien n'est acquis à ce niveau-là. On imagine bien que le bailleur de fonds principal du projet qui serait sollicité sera le ministère du patrimoine canadien.
Suite au décès de Joyce
Etchakwan, membre de la communauté, sa division des espaces culturels. Alors, une demande de financement devra être envoyée au courant du mois de décembre, si on comprend bien. Et là, ensuite de là, on pourra voir si le financement est accordé et si se diriger vers une mise en chantier. Il faut toujours trouver un terrain pour bâtir ce futur projet et qui pourrait être le terrain où se trouve présentement la maison Laurent Leroux, où sont situés les studios de Radio Taïga. Mais aussi, ça pourrait être un terrain du centre-ville. Ça ne semble pas être arrêté comme décision. Par ailleurs, on a l'intention de tenir une nouvelle rencontre communautaire au courant du mois de novembre.
Parfait. Bien, Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Je vous en prie, Thomas.
Au Labrador, le 6 octobre, une majorité d'électeurs ont reconduit dans ses fonctions le président sortant du Nunatsiavut, Johannes Lamp, qui a battu sa concurrente Andrea Webb-Tuglavina. Notre collègue Denis Laure est avec nous pour nous en parler. Bonjour, Denis.
Bonjour, Thomas.
Donc, Denis, pour remettre en contexte, le Nunatsiavut fait partie de Terre-Neuve et Labrador, mais a quand même une importante indépendance.
Oui, le Nunatsiavut, c'est 72 500 km² au Labrador. L'association des Inuits du Labrador a négocié une certaine autonomie avec Terre-Neuve et le Canada dans les années 2000. Et puis, depuis ça existe, donc, le Nunatsiavut, depuis 2006, ils ont des pouvoirs dans le domaine de la santé, de la justice, de l'éducation, des affaires communautaires. Mais je sais qu'en termes d'éducation, ils n'exercent pas encore les pleins pouvoirs, sont pas peut-être tout à fait appareillés pour le faire jusqu'à maintenant.
D'accord. Et donc, le président sortant a été reconduit, le monsieur Lamp, qui a quand même une solide expérience politique dans cette région-là.
Oui, monsieur Lamp, qui avait été député de Maine, qui est la capitale, était ministre de la Culture, des Loisirs et du Tourisme. C'était la quatrième fois qu'il se présentait. En 2008 et 2012, il avait été défait. Puis en 2016, il s'était présenté contre Sarah Léo, qui l'avait défait précédemment. Et puis, Mme Léo, sa candidature a été invalidée parce qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment l'INOTOP, ce qui est une condition de la loi sur les élections de Nunatsiavut pour pouvoir être président.
M. Lampe a été reconduit avec tout de même, il y a seulement 27% des électeurs potentiels, là, des 5972 bénéficiaires de plus de 16 ans qui ont voté. C'est quand même un taux de participation qu'on juge assez bas.
Oui, il faudrait peut-être quand même dire que M. Lampe a eu le double des votes de Mme Webb Touglavina, qui n'était pas si connue et qui n'a pas fait, on dit, une très grosse campagne. Et puis, donc, 27% des gens ont voté. On peut écouter Johannes Lampe qui explique une des raisons de ce faible taux de vote.
COVID-19 also played a big role in this. Our candidates were not able to travel as before to campaign in the non-serve communities.
Monsieur Lampe lui-même a eu une opération pour le cancer durant les élections. Il a passé une grande partie de la campagne à l'hôpital. Il est par voie de communiqué, il a dit lui-même qu'il n'a pas pu être sur le terrain et puis qu'il sait qu'il y a une des raisons du faible taux de participation. Par contre, si on prend les explications de Monsieur Graham White, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Toronto et qui est un des auteurs de Inuit Governance in the Arctic, selon lui, les élections en 2012, le taux de participation était inférieur à 40%. Donc, c'est quelque chose qui reste encore à bâtir dans ce pays où les gens en haut de 16 ans ont le droit de voter. C'est intéressant. Il y a une circonscription qui s'appelle celle du Canada. Donc, c'est parce que il y a près de 30 à 40% de la population des citoyens du Nunatsiavut qui vivent en dehors. Le président de la Chambre, par exemple, me dit-on, vit à Toronto. Donc, ces gens-là devaient voter par la poste, mais apparemment, il n'y a pas eu de problème de poste et le vote a été acheminé.
Et donc, à quoi on s'attend pour la suite des choses? Quelles sont les attentes des électeurs et quelle est la mission que s'est donnée M. Lampe pour son prochain mandat?
Monsieur Lampe s'est donné comme mandat de poursuivre les dossiers sur lesquels il avait travaillé précédemment. Donc, le logement, très gros problème là-bas pour le logement. Développer encore la culture des Inuits. Il y aura un très faible taux de locuteurs de l'Inuktitut ou Nunatsiavut. Ça serait, je pense, à peu près 30%. Donc, c'est pas très élevé. Pour Graham White, les transports, le développement des transports est très important. Monsieur White me disait que les transports sont presque inexistants. Il n'y a pas de route. Même les pistes d'atterrissage, qui est un élément essentiel pour les transports, sont assez limitées. Elles peuvent accueillir juste des petits avions comme des Twin Otter. Il me disait même que dans la capitale, il n'y a pas de lumière pour la piste d'atterrissage. Donc, c'est des choses importantes, comme le déclin de la population de caribou. Il y a également une crise de la pêche aux crevettes. Le gouvernement canadien aurait enlevé une partie du quota de pêche des Inuits du Nunatsiavut dernièrement. Le ministre de la Pêche, M. Greg Flower, celui du Nunatsiavut, évidemment, a parlé de trahison. Donc, ils sont en train d'explorer les recours légaux pour pouvoir avoir davantage de pêche aux crevettes.
Beaucoup de dossiers à suivre du côté du Nunatsiavut. Vous reviendrez nous en parler. Denis Laure, on invite les lecteurs à vous lire dans la prochaine édition de l'Aquilon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Thomas, merci tout le monde.
Les circonstances tragiques entourant la mort de Joyce Etchakwan, cette femme autochtone décédée à l'hôpital de Joliette au Québec après avoir subi les propos racistes de la part du personnel soignant, ont fait des vagues à travers le monde. Des sessions d'orientation et de sensibilisation culturelle ont été mises en place pour le personnel soignant des trois territoires canadiens. Ma collègue de la plateforme Zone Arctique, Nelly Guidici.
Suite au décès de Joyce Etchakwan, membre de la communauté Atikamek de Manawan, et victime de propos racistes à l'hôpital de Joliette, de nombreuses personnes et organisations ont exprimé leur indignation et ont demandé à ce que des actions soient prises afin d'enrayer le racisme systémique au Québec et au Canada. L'Association des médecins autochtones du Canada a indiqué dans un communiqué de presse du 30 septembre 2020 que l'existence du racisme systémique dans les systèmes de santé, mais aussi de justice et d'éducation au Canada est indéniable. Le 8 octobre 2020, Mark Miller, le ministre fédéral des services aux autochtones, a indiqué dans une allocution que les différents gouvernements ont un rôle à jouer et que les partenaires autochtones seraient contactés afin que le changement s'intègre de façon durable dans la société. Dans les territoires, des initiatives sont déjà en place et des sessions d'orientation et de sensibilisation culturelle sont délivrées pour les employés des services de santé travaillant au Nunavut par exemple, mais également au Yukon et au territoire du Nord-Ouest. Cependant, selon André Corriveau, spécialiste en santé publique et médecine préventive, plusieurs freins à l'efficacité de tels programmes demeurent. Le manque de personnel en soins de santé en Arctique, ainsi que les nombreuses rotations d'employés, sont un obstacle à la mise en place durable de sessions de sensibilisation culturelle.
C'est un dossier ou un sujet qui est un sujet de préoccupation depuis plusieurs années, parce que la majorité, même aujourd'hui, des travailleurs de la santé, ils ne sont pas natifs du Nord, puis ils sont pas généralement. On a très peu de travailleurs de la santé qui sont autochtones. Alors, c'est un problème qui a été reconnu depuis longtemps. Pour les gens qui viennent au Nord, bien, comme je dis, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits pour initier les nouveaux arrivés ou les gens qui sont un bout de temps à la culture locale, aux croyances puis au savoir traditionnel en santé. Mais c'est pas toujours mis en place de façon continue. Puis il y a le roulement du personnel qui rend difficile de faire ça de façon systématique et durable. Alors c'est toujours un projet à refaire.
Le manque de personnel issu des communautés inuites et des Premières Nations est également un défi selon lui, même si des formations de baccalauréat en sciences infirmières sont possibles à Iqaluit notamment.
Ça commence avec l'école, encourager les jeunes à penser à des carrières en santé et ensuite le support qui est donné pour favoriser, c'est un projet à long terme, de développer des programmes pour que les gens puissent avoir leur formation sur place. Et les territoires du Nord-Ouest ont aussi, et le Nunavut, ont développé des programmes en sciences infirmières pour encourager, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des jeunes qui doivent s'isoler de leur culture pendant plusieurs années pour aller se former à l'extérieur. Il y a encore beaucoup de travail à faire puis de cheminement pour qu'on arrive où on voudrait être.
Si le chemin qu'il reste à parcourir semble long, l'écoute et la confiance de part et d'autre semblent plus que jamais nécessaires pour une société qui cherche à donner sa place à chacun de ses citoyens dans l'égalité et le respect de tous. C'était Nelly Guidici pour Zone Arctique.
Et voilà, c'est tout pour Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Je souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.